troisième livre de la Bible,
le livre de Lévitique, et nous allons étudier ce matin le chapitre 1. Dieu voulant, nous allons commencer une série d'études qui va comporter 10 prédications. Ces 10 prédications vont se porter sur les 10 sacrifices de l'Ancien Testament. Donc il y a 10 sortes de sacrifices différentes que les Juifs devaient offrir à Dieu pour s'approcher de lui. Et nous allons avoir 5 prédications sur les 7 festivals religieuses, fêtes religieuses que les Juifs devaient célébrer en allant à Jérusalem plusieurs fois par année. Nous allons faire les 7 en 5 sermons et nous allons voir de manière étonnante que dans ces 5 sacrifices et dans ces 5 fêtes, l'Ancien Testament nous explique l'œuvre de Christ et l'œuvre du salut de manière minutieuse, détaillée et absolument merveilleuse. Et rappelez-vous que le livre de Lévitique est écrit 1500 ans avant Jésus-Christ. Rappelez-vous que les Juifs, demandez à un Juif, vous saurez, ont étudié le Lévitique des centaines d'années avant la venue de Jésus de Nazareth sur la terre. Or, nous allons voir en étudiant ces passages que ça parle de Christ, comme Christ lui a lui-même dit, que Moïse a parlé de lui dans ses écrits. Donc, les 5 sacrifices, et nous commençons aujourd'hui par le sacrifice le plus important de l'Ancien Testament qui s'appelle l'Holocauste. L'Holocauste. Nous allons donc lire le chapitre 1 qui n'est pas trop long et vous allez voir qu'on va adopter un plan assez simple grâce à M. Stuart Olliott. Et je vous dis au début de cette série que c'est un peu différent, c'est un peu exceptionnel parce que je vais vraiment suivre M. Olliott dans la manière dont il a enseigné ces choses. Il y a 20 ans, j'ai écouté ses sermons sur ce sujet qui m'ont fait beaucoup de bien. J'ai carrément transcrit ces sermons, je les ai étudiés, j'ai fini par étudier le livre de Lévitique et même de l'enseigner dans un institut biblique au Burkina Faso. Et donc, donner le crédit à M. Olliott pour le plan et la manière dont ça disposait, parce que je ne vais pas m'écarter souvent. Parfois, je vais m'écarter. Je vais ajouter quelques points. Rarement, je vais dire quelque chose de différent que lui l'a dit dans ses prédications. On veut toujours donner le crédit là où le crédit est dû. Et donc, je vous dis d'emblée que je vais vous enseigner tout simplement comme j'ai été enseigné. Voilà. OK. Donc, nous lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 1. L'Éternel appela Moïse depuis la tente de la rencontre, c'est-à-dire le tabernacle. C'est une tente où les sacrifices devaient être accomplis dans le désert. Il lui parla et dit, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme d'entre vous fera une oblation, moi je vais plutôt dire offrande, parce que le mot oblation on ne connaît pas trop bien, lorsqu'il veut faire une offrande à l'Éternel, il offrira une offrande de gros ou de menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, sans tache, sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui aura l'agrément de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et répandront sur le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera en morceaux. Les fils, chaque détail est important, hein? Les fils du sacrificateur Aaron mettront le feu sur l'autel et disposeront du bois sur le feu, les sacrificateurs, fils d'Aaron, disposeront les morceaux, la tête et la graisse, sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera l'adorateur, donc moi ou toi, il lavera, si on était juif à l'époque, il lavera avec de l'eau les entrailles et les pattes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chevreau, il offrira un mâle sans défaut. Vous allez voir qu'il y a un peu de répétition, mais les gens doivent savoir exactement comment faire. Hein? Donc, il faut que Dieu leur explique chaque pas. Il l'égorgera au côté nord de l'autel devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur le pourtour de l'autel. Il le coupera en morceaux, y compris la tête et la graisse, et le sacrificateur disposera cela sur le bois, sur le feu de l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles, les pattes. Le sacrificateur offrira le tout, et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Troisième cas de figure. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseau, il offrira des tourterelles ou des jeunes pigeons. Le sacrificateur offrira l'oiseau sur l'autel, il lui comprimera la tête avec l'angle et la brûlera sur l'autel et il exprimera le sang contre le paroi de l'autel. Il détachera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient dans le lieu où l'on met les cendres. Il le déchirera par les ailes sans détacher les ailes. Il faut que le corps reste intact. Et le sacrificateur brûlera l'autel sur l'oiseau sur l'autel, sur le bois mis au feu. C'est un holocauste consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Nous sommes au premier mois de la deuxième année après la sortie d'Israël d'Égypte. Ils sont toujours à Sinaï. C'est là que Dieu les a rencontrés, c'est là que Dieu a pris ce peuple comme le tien dans une alliance. Ils ont bâti, selon les instructions de l'Éternel, un tabernacle qui s'appelle la tente de rencontre, rencontre entre Dieu et l'homme. Et c'est là que tous les sacrifices doivent être faits, et si on veut rencontrer le Seigneur, on s'approche de Dieu dans la tente de rencontre. D'accord ? La gloire de Dieu est venue dans cette tente, dans le lieu très saint où Moïse seul peut aller, mais c'est une grande tente avec une grande place, ok, et tout le peuple peut y venir. Dieu parle dans ce premier mois de la deuxième année, un jour il parle à Moïse, directement. Et le premier verset nous dit « L'Éternel appela Moïse depuis la tente de la rencontre, il lui parla et dit. » Il faut que vous sachiez que le livre de Lévitique, c'est le livre où on a le plus de paroles directes de la part de Dieu. Lorsque vous lisez Lévitique, vous êtes plus que dans tous les autres livres de la Bible à l'écoute de Dieu lui-même qui parle directement. Ce livre, si vous voulez avoir le thème du livre, c'est la sainteté de Dieu. Dieu est pur. Et 160 fois dans le livre, nous rencontrons ce mot sainteté. Nous rencontrons aussi 60 fois l'idée de vivre devant l'Éternel. Écoutez ce verset dans Lévitique 26. Dieu dit, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Mais parce que Dieu est saint, 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 il faut que le peuple soit saint pour s'approcher de lui. Et donc, le livre explique tout cela en deux parties très distinctes. Et je vais finir cette introduction avec ça. Dans la première partie de Lévitique, donc il s'agit des chapitres 1 à 16, on apprend comment s'approcher d'un Dieu qui est très saint. Donc là, dans ces chapitres, on parle de sacrifice et de sacrificateur. Dans la deuxième partie, de chapitre 17 jusqu'au 27, on parle de comment, non pas s'approcher d'un Dieu saint, mais comment marcher avec un Dieu saint. Okay? Et là, dans ces chapitres, on parle de règles pour une vie pure, des règles pour les sacrificateurs, des règles concernant des articles, des objets saints, des jours saints, comment les vivre, comment vivre le calendrier, l'année sainte, et enfin toutes sortes de choses, même tout un chapitre sur le sexe, la sexualité, dans le Lévitique, comment vivre la vie sexuelle de manière pure et comme il faut. Donc dans ces chapitres 1 à 7, nous avons les cinq sacrifices, ok? C'est ça qu'on va étudier pendant 5 semaines. Et il faut que vous sachiez pourquoi y a-t-il 5 sacrifices et pas une seule sorte de sacrifice. Parce que ces sacrifices sont très différents. Et il faut 5 sacrifices différentes pour nous montrer tous les aspects multicolores du seul sacrifice de Jésus-Christ qui allait venir. Comment est-ce que Dieu va faire si le vrai sacrifice, le vrai sauveur, va venir dans quelques siècles, mais il faut que le peuple déjà croit en celui qui va venir et croit en son œuvre. Bon, il faut que Dieu explique cette œuvre en détail. Et la meilleure manière d'expliquer quelque chose à un peuple païen, qui ne connaît rien sur Dieu, et Israël en sortant d'Égypte est païen, c'est de leur faire des trucs concrets, des rites concrets, des choses concrètes qu'on voit, et ils vont comprendre qu'est-ce que Dieu dit au sujet de la manière de s'approcher de lui. Et ils vont croire dans le sauveur, le vrai sacrifice qui va venir un jour. Donc, comme je vous ai dit dans le culte, le mot holocauste, et c'est le premier des sacrifices, c'est un mot qui aujourd'hui est associé au massacre des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le mot à l'origine est un mot qui signifie une sorte d'offrande ou de sacrifice religieux. C'est un holocauste. Parce que on a pris ce mot pour parler du massacre des Juifs, parce que l'holocauste est vraiment un truc terrible où le sacrifice est consumé complètement par le feu. D'accord. Et c'est le seul des 5 sacrifices, l'holocauste, où tout l'animal est consumé par le feu et tout l'animal part en fumée et feu symboliquement à Dieu. Ça lui est donné complètement. Écoutez ce verset. Dans le chapitre 1 et verset 13, le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel, c'est un holocauste. C'est complètement brûlé. Un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et la dernière chose que j'ai à dire avant d'entamer ce plan qu'on va assez rapidement parcourir, c'est simplement de dire que vous devez comprendre que l'holocauste est une offrande volontaire. Nous allons voir que dans les 5 sacrifices, il y a des sacrifices obligatoires que, si on était juif, on devait offrir dans certaines circonstances. Mais ce sacrifice, pour l'adorateur, est un sacrifice volontaire. Verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Ok, voilà ce que nous allons faire ensemble. Nous allons voir l'offrande et son déroulement. Comment est-ce que ça s'est passé, l'offrande? Si tu étais là, si tu offrais un holocauste, comment est-ce que ça se passait? Deuxièmement, la répartition des portions. Et ça, le plan va être le même chaque dimanche pendant cinq semaines. Okay? Qui reçoit quoi? Parce que nous allons voir que dans les sacrifices, des amis, normalement, Dieu reçoit une partie qui est brûlée, qui va vers lui. Le sacrificateur reçoit une partie qui mange. Et l'adorateur reçoit une partie qu'il mange. Okay? Nous allons voir dans chaque sacrifice, et aujourd'hui aussi, la répartition des portions. Et enfin, nous allons regarder les leçons pour notre vie. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit au sujet de l'Holocauste? Ok, on y va. L'offrande et son déroulement. D'abord, la première question, bien sûr, c'est quels sont les animaux qui sont employés dans le sacrifice de l'Holocauste? Alors, il y a trois choix. Tu es juif, tu peux offrir soit un sacrifice du gros bétail. Ça, c'est le troupeau bovin. D'accord? Versets 2 et 3. Il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, et puis on parle, il égorgera le veau. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est le verset 10. Ça peut être un sacrifice de menu bétail. Ça, c'est le troupeau des... Comment? Oui, c'est les chevreaux ou les agneaux. D'accord? Et troisièmement, il y a la possibilité de sacrifier un oiseau, un jeune pigeon ou une tourterelle. Verset 14, si son offrande est un holocauste d'oiseau, il offrira des tourterelles et des jeunes pigeons. Mais dans les trois cas, ça doit être un animal domestique, apprivoisé. Ok? Comprenez? Et donc, ça veut dire que c'est un animal qui n'est pas sauvage. Parce que rappelez-vous que ça doit préfigurer celui qui vient, qui est le prince de la paix, qui n'est pas un homme de violence. Donc, on a des animaux qui ne tuent pas. Deuxièmement, c'est un animal qui est nourri de grains, de légumes, de fruits. Aucun animal carnivore ne peut être offert en sacrifice. Vous comprenez aussi l'allusion que notre Seigneur est innocent. Et ensuite, ça doit être un mâle de l'espèce, pas une femelle. Verset 3 et verset 10, vous l'avez lu avec moi, il faut que ce soit un mâle de l'espèce. Parce que celui qui vient est l'homme Jésus-Christ. Qui s'offre son tâche. Ok. Le premier message de Lévitique 1 est très clair si vous et moi, on est juifs pendant le temps de l'Ancien Testament. Et cette leçon, c'est que vous ne pouvez jamais vous approcher de Dieu sauf s'il y a un autre qui meurt. La seule manière pour toi de s'approcher de Dieu, c'est qu'un autre meurt à ta place. Tu veux parler avec Dieu, tu veux remercier Dieu, tu veux simplement louer Dieu, il faut qu'un autre meure dans cette tente devant tes yeux. Et seulement sur la base de cela, tu peux t'approcher de Dieu, parce que tu es pécheur. La deuxième leçon du chapitre est aussi très claire. Tu ne peux pas décider de ton propre chef qu'est-ce que tu vas offrir. Il y a un choix d'animaux possible, on a vu, mais c'est Dieu qui a déterminé les options, n'est-ce pas? C'est Dieu qui prescrit quelle sera l'offrande qui est capable de te faire accepter auprès de Dieu. Et c'est Dieu qui décide qui peut, en réalité, pas préfiguration, qui peut expier tes péchés en mourant à ta place. C'est Dieu seul. Si tu vas t'approcher de Dieu un jour, ou si tu t'approches déjà de Dieu, il faut que tu viennes selon ses termes. Il est Dieu. Et il faut que tu viennes selon ses termes. Et il faut que rien ne soit laissé à ton imagination ou à ton idée. Dieu parle à Moïse et dit, « Dis aux enfants d'Israël, c'est comme ça qu'ils doivent s'approcher de moi. » Et vous savez ce qui arrive lorsqu'on essaie de s'approcher de Dieu d'une manière inventée par vous-même? Chapitre 10 de Lévitique. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Il y avait des parfums qu'on pouvait brûler devant l'Éternel, mais Dieu prescrivait les éléments qui devaient faire ce parfum et le pourcentage, le mélange. Mais eux, ils ont décidé d'inventer à eux-mêmes, de venir comme ils voulaient. Donc, devant l'Éternel, du feu étranger, ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ces hommes, Nadab et Abihu, ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié, c'est-à-dire considéré comme étant saint, par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Et Aaron, le père de ces deux hommes qui viennent mourir, garda le silence. Dieu est saint. Pourquoi est-ce qu'il y avait trois choix d'animaux? C'est pour enseigner que même si tous doivent venir de la manière dont Dieu définit, personne n'est exclu. Si tu es riche, tu peux offrir un veau. Si tu n'as pas l'argent pour acheter le veau, tu peux offrir un agneau. Ou si tu es frappé de pauvreté, tu n'es pas exclu. Tu peux t'approcher de Dieu, tu achètes tout simplement un jeune pigeon ou une tourterelle. Et donc vous pouvez voir que cette disposition est logique et signifie que Dieu donne un moyen par lequel tous peuvent venir. Personne n'est exclu. Mais il faut que tout le monde offre le meilleur qu'il peut. Le riche ne peut pas venir en achetant et en offrant une tourterelle. On doit offrir le meilleur qu'on peut, le plus coûteux. Pourquoi? Parce que les Juifs apprennent que le sacrifice qui me rend acceptable à Dieu est un sacrifice coûteux. Le sacrifice du Fils de Dieu a été très, très coûteux pour l'Éternel Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu exigeait? Nous sommes toujours en train de parler du déroulement. Nous avons parlé des animaux qui pouvaient être utilisés. Deuxièmement, dans le point B, qu'est-ce que Dieu exigeait de l'adorateur? C'est toi, supposons l'adorateur juif dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que toi tu devais faire lorsque tu voulais offrir un holocauste? Verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il offrira la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé devant l'Éternel. Si, ça parle d'une offrande volontaire. Il faut que tu offres volontairement ce holocauste. Et deuxièmement, dans le verset 4, il faut que tu poses ta main sur la tête d'un animal. Regardez. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui aura l'agrément de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Le mot hébreu « poser » est un mot qui veut dire « presser lourdement sur ». Donc, tu viens à la tente de rencontre, tu as acheté l'holocauste, cet animal est donc amené. Une fois que tu es dans la tente, tu poses ta main sur la tête de l'animal lourdement. Comme pour sentir le poids du fardeau que tu es en train de mettre sur cet animal qui, lui, va porter tes péchés. Et même, la Bible nous dit que souvent, il est question de confesser tes péchés au moment de poser ta main sur l'animal. Et vous voyez le symbole? Tes péchés, tu les transfères sur lui qui les porte à ta place. Mais tu dois tracer cette tête pour sentir toi-même le poids, la gravité de ce que tu es en train de mettre sur cet animal qui est sur le point d'être tué à cause de son identification avec toi et ton péché. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste pour lui servir, dit la fin du verset, d'expiation. Parce que l'animal va te servir d'expier ou de payer la peine de tes péchés, de les expier, de les enlever. Troisièmement, tu dois tuer l'animal toi-même. Ce n'est pas le sacrificateur qui le fait, c'est toi. Nous lisons dans le verset 5, « Il, et dans le contexte, le « il », c'est l'adorateur, hein, « si son holocauste est de gros bétail », verset 3, « il », l'adorateur offrira. Mais dans le verset 5, « il, l'adorateur, égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang, et répondront sur le pourtour de l'autel, donc ce sang. » Donc, Dieu voulait que, si on était juif dans l'Ancien Testament, que l'horreur de la mort de cet animal égorgé, immolé, que tu sois intimement proche de cela, que tu vois le coût de ton approche de Dieu. Il devait égorger l'animal au côté nord de l'autel, le même côté de Jérusalem que la colline de Golgotha, où Jésus est mort quelques siècles plus tard. Qu'est-ce que Dieu exigeait du sacrificateur? Premièrement, dans le verset 5, on vient de le lire, il doit répandre le sang autour de l'autel. Le sang de l'animal, le sang représente une vie déversée, une vie perdue par une mort, non, pas par une mort, par une mort violente. Quand on meurt de manière non violente, il n'y a pas de sang qui coule. Mais le sang représente que cet animal a été immolé, sacrifié de manière violente. C'est la même chose pour nous et le Seigneur Jésus-Christ. Il doit, verset 6, enlever la peau du sacrifice. Regardez. Il dépouillera, le sacrificateur dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Et cette action... Vous vous rappelez quand nous avons lu le passage, l'animal doit être sans défaut, n'est-ce pas? Donc quand tu achètes l'animal, tu l'examines, tu regardes partout sur l'animal, il ne doit pas avoir un défaut. Ni il ne peut pas boiter, il ne peut pas avoir une maladie de peau, et tu peux voir de l'extérieur qu'il est sans défaut. Mais quand on enlève la peau et quand on coupe les morceaux, on voit que l'animal qui était sans défaut extérieurement est aussi sans défaut intérieurement. Complètement sans défaut. N'est-ce pas? Mais il y a probablement une deuxième raison d'enlever la peau aussi. Nous lisons dans Ésaïe 53 ce passage qui nous parle, nous prophétise la mort de Jésus. Nous lisons ceci au verset 7. Écoutez bien. Je vais vous lire le verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Écoutez maintenant. « Il a été maltraité, Jésus, il s'est humilié. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'a tonde, devant ceux qui enlèvent sa peau. » On a l'image d'une brebis muette. Ici, c'est la honte. Il est muette devant ceux qui enlèvent sa gloire. La gloire de l'agneau, c'est sa peau. la gloire de l'oiseau, c'est ses plumes. Mais on enlève les plumes, on enlève la peau, et voilà cet animal qui est complètement dépourvu, nu, dépourvu de sa protection, de sa gloire, comme Christ l'est sur la croix. Et le Christ meurt sur la croix de manière typique. Si on lit les documents romains, on crucifie les hommes nus à la croix, complètement vulnérables, dont la honte, cette honte fait partie de la souffrance de notre Sauveur béni. Dépourvu. Versets 7 à 9, après avoir lavé les entrailles et les pattes, vous avez vu dans la lecture où il devait laver les entrailles et les pattes, pourquoi? Pas de saleté dans le sacrifice à Dieu. Les entrailles, c'est l'endroit de l'excrément, la saleté se colle aux pattes de l'animal. Donc, voilà, ça doit être lavé. Pardon, en fait, c'est l'adorateur qui fait cela parce que le sacrificateur ne peut pas se souiller. Donc, l'adorateur, c'est vous-même qui doivent enlever cette saleté du sacrifice. Et donc, le sacrificateur place tous les morceaux sur le feu, sur le bois et le feu, et tout est brûlé, tout est consumé, rien n'est retenu, rien n'est épargné. Pensez au sacrifice de Christ. Pensez à Christ dans le jardin qui dit, « Seigneur, si cette coupe peut m'être enlevée, et il n'est pas épargné. » Le point fouet de la colère de Dieu le frappe et le consume complètement. Rien n'est épargné. C'est ça que notre Seigneur a subi. Et lorsque les Juifs voyaient cet animal qui est coupé en morceaux, qui est dépourvu, qui est brûlé complètement, et c'est comme ça que moi je peux m'approcher de Dieu, on comprend la gravité du péché. Et on comprend combien Dieu est saint. Et on comprend le sacrifice à venir. Ok, maintenant, on va parler de la répartition des portions de l'offrande. Qui reçoit quoi? Ça ne va pas prendre longtemps, parce que c'est facile, Dieu reçoit tout. Dans l'Holocauste, c'est différent, parce qu'aucune partie n'est réservée au sacrificateur pour qu'il en mange, ou à l'adorateur pour que vous en mangiez. Donc, parce que tout est brûlé. Et tout l'animal monte symboliquement à Dieu, cela lui est donné. Et dans cet holocauste, on nous dit que c'est une odeur, cette fumée est une odeur agréable à l'Éternel. C'est pour son plaisir, c'est pour le satisfaire que le sacrifice est donné. Maintenant, voilà une chose importante. Quand nous les chrétiens, on parle de Jésus sur la croix, sa mort, souvent, on parle comme si le seul but de sa mort, c'est nous. C'est pour nous sauver. C'est pour nous racheter qu'il est mort. C'est complètement faux. La première raison pour le sacrifice n'est pas l'homme. C'est pour satisfaire à Dieu. Le sacrifice est quelque chose donné à Dieu, une odeur agréable à lui. Et c'est la même chose avec le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand un juif parlait de l'Holocauste, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est que le sacrifice, dont l'Holocauste est la principale, un sacrifice, c'est quelque chose pour Dieu, pour sa satisfaction. C'est un Holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, meurt premièrement pour satisfaire au Père par rapport à nos péchés. Quelle est la part de l'animal qui revient au sacrificateur? Ben rien. Il a la peau, mais rien à manger. La peau témoigne que l'animal n'est plus là, l'animal est parti. Mais peut-être, je me demande si les sacrificateurs, ayant cette peau, pense à la première fois qu'un animal a dû être tué pour que quelqu'un se retrouve avec sa peau. Vous savez quand c'était? Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ayant péché, ils ont essayé de se couvrir parce qu'ils savent maintenant qu'ils sont nus, et ils essaient de se couvrir avec des feuilles, et Dieu ne permet pas. Dieu tue un animal ou des animaux, c'est la première fois qu'un animal meurt dans l'histoire humaine, et pour le couvrir de peau d'animal. De peau d'animal. Les sacrificateurs ont ces peaux et pensent bien, probablement, voilà ce qui couvre la honte de nos péchés. Le sacrifice de Christ nous couvre la honte que nous avons d'avoir été si mauvais, si indignes dans notre comportement vis-à-vis d'un Dieu bon et digne de gloire. Quelle est la part de l'animal qui revient à l'adorateur? Bien, si c'est toi, tu rentres à la maison les mains vides. Tu n'as rien et tu rentres en sachant que tu n'as rien contribué pour gagner cet accès auprès de Dieu que tu as eu ce jour-là. Tu as les mains vides, tu as pu t'approcher de Dieu, être accepté de lui, grâce à un animal qui meurt à ta place, un animal que Dieu désigne, grâce à un sacrificateur que Dieu établit et qui répand le sang autour de l'autel, grâce à un tabernacle qui construit selon l'ordre de Dieu. Et toi, tu rentres, tu n'as rien donné à Dieu, tu n'as fait que recevoir. C'est l'image. Peut-être vous vous dites, mais tu as acheté le sacrifice quand même. Mais dans la plupart des sacrifices obligatoires, ce n'est pas nous qui l'achetons, ça vient des sacrificateurs qui les sacrifient tous les jours, matin et soir. Et le sacrifice ne vient même pas de nous. D'accord? Maintenant, les leçons pour notre vie en tant que chrétien, rapidement. Trois choses. Éphésiens chapitre 1, je vais vous lire trois passages de la Bible qui parlent spécifiquement du sacrifice de l'Holocauste et qui expliquent le sens. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, nous lisons ceci. Soyez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés. Et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bon odeur. Vous voyez? On décrit ici la mort de Jésus comme une holocauste volontaire, entier. Il s'est livré lui-même en tant que substitut, parce que le passage nous dit, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Et tout ce qui est vrai dans le sacrifice de l'Holocauste de l'Ancien Testament est vrai du sacrifice de Christ. Volontaire, entier, une substitution, c'est pour couvrir le péché et c'est complètement nécessaire. Et il est complètement livré, consumé. Je parlais avec quelqu'un dans la semaine et on discutait de la mort de Jésus. Parfois, les gens ne comprennent pas que la mort de Jésus-Christ sur la croix n'est pas simplement une mort physique. Les deux brigands à côté de lui ont été crucifiés aussi physiquement. Mais ce que Jésus a subi, qui était infiniment plus grave, s'est passé non pas physiquement, mais invisiblement et spirituellement, où la colère de Dieu contre le péché des hommes, c'est-à-dire l'enfer éternel est comprimé en quelques heures et il expérimente ce que c'est que de subir un enfer éternel comprimé dans quelques heures. Et c'est simplement indescriptible, nous ne pouvons pas comprendre. Je me demande si ce n'est pas pour ça que les ténèbres sont descendues sur Jésus, personne ne le voyait au moment de sa crucifixion. Parce que quelque chose se passait que l'homme ne peut pas comprendre. Holocauste, dans le sens le plus incroyable. Et cela parce qu'il nous a aimés. Autant. Deuxième passage, c'est Romains 12, 1 et 2, que Timon nous a lu plus tôt dans le culte. Et là, nous lisons que je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En d'autres termes, une fois que vous êtes sauvés par l'Holocauste de Christ, vous devez devenir un holocauste à Dieu dans un autre sens, non pas pour payer vos péchés, mais dans le sens que tout comme cet animal est complètement pour Dieu maintenant, complètement pour Dieu, votre vie doit être complètement donnée à Dieu, complètement. Dieu ne veut pas que vous fassiez des sacrifices. Vous savez que chez les catholiques, pendant la période avant la Pâque, pendant plusieurs semaines, on sacrifie quelque chose. Je me souviens que mon frère, qui est catholique, m'a dit qu'il ne mangeait pas de chocolat pendant cette période. C'était son sacrifice. C'est pas ça que Dieu veut. Il ne veut pas des petits sacrifices. Il veut que vous soyez tout entier, votre vie, en reconnaissance à sa vie donnée pour vous, vous donnez votre vie à lui. Mais sacrifice vivant dans ce cas. Il précise, Paul dit un sacrifice vivant. Ce n'est pas pour que vous soyez brûlé, mais votre vie doit être livrée à Dieu, comme un holocauste. Troisièmement, Hébreux chapitre 10, verset 8. Ne nous livrons pas, pardon. Mauvais passage. Je termine par là. Verset 8. Il dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice d'une offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. C'est-à-dire, Dieu n'a pas voulu ces cinq sacrifices de l'Ancien Testament. C'est juste des préfigurations jusqu'à ce que ce qu'il voulait vraiment arrive, Jésus-Christ. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté, le Christ. Qui dit, c'est plutôt moi qui dois être sacrifice. Il abolit donc le premier culte et les premiers sacrifices pour en établir un second. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande, l'holocauste, du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et il tire la leçon dans le verset 19 que je lis. Ayant donc frère, ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Comment est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez comme un païen? C'est-à-dire, vous vous approchez de Dieu sur la base de votre bonté. Entends-moi Dieu parce que j'ai été bon cette semaine. Ou aujourd'hui. Pas sur la base de la mort d'un substitut ou quoi, ce que Dieu définit, ce que Dieu demande, ce qui satisfait à Dieu, mais simplement comme vous l'entendez. Moi, je prie, accepte-moi parce que je suis sincère. Ou bien, est-ce que vous priez chrétiennement? Le chrétien n'ose jamais venir sauf au nom de ce que Christ a fait. Mon substitut est mort à ma place. Voilà donc pourquoi moi, pécheur, je peux te parler même, Dieu très saint. Tout à l'heure, nous avons prié dans le culte, et j'ai dit à la fin de cette prière, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Et dans ma tête, je pensais à tout cela. C'est parce que j'ai pressé ma main sur la tête de mon sauveur, et j'ai dit, sois mon sacrifice. Enlève mes péchés, sinon je ne pourrai jamais m'approcher de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons donc être reçus par lui tous les jours dans la prière. Ben voilà l'Holocauste. Nous avons étudié le premier sacrifice qui commence à nous montrer certaines facettes merveilleuses de ce sacrifice entier du Christ, qui est lui-même le vrai Holocauste. Qu'il soit béni. Bien, nous allons prier pour terminer le culte. On ne va pas faire venir une équipe pour un chant dernier. On va juste prier le Seigneur. Donc, je vous laisse le temps de prier si vous voulez, librement.
Sauveur est mort sur la croix, c'est tellement profond, immense et insondable. Mais c'est une évidence aussi que notre péché est insondable. Et Seigneur, nous nous remettons en toute confiance à toi pour que l'efficacité du sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ nous soit appliquée. Et c'est notre seule espérance pour ce monde et pour l'autre. Gloire te soit rendue. Amen.
Amen.
Oui, Seigneur, merci pour ce sacrifice parfait, Seigneur, en toi, en ton Fils Jésus. Et par là, nous voyons que nous sommes tellement différents de toi, tu es tellement saint, et nous sommes tellement pécheurs, et nous n'avons que un seul. Chemin, Seigneur, pour nous approcher de toi, ton Fils. Merci pour ce grand amour, Seigneur, que tu as porté. Merci, au nom de Jésus.
Amen. Oui, Seigneur, Dieu, nous voulons aussi te louer pour la perfection, la beauté de ta parole. Merci parce que nous voyons que tu as annoncé ton Fils de tellement de manières différentes et aussi à travers ce premier chapitre de l'Éthique. Merci Seigneur parce que nous voyons que tu as envoyé ton Fils de manière volontaire. Seigneur, personne ne t'a obligé. Tu as voulu l'envoyer pour nous, par amour. Et Seigneur, nous sommes juste abasourdis et étonnés devant tant d'amour pour nous. Nous te bénissons pour l'enfer qu'a vécu ton Fils à notre place. Oh Seigneur, merci, parce que nous sommes en toi, nous sommes libres, en toi nous avons la paix avec notre Dieu. Sois loué, au nom de Jésus.
Amen. Oui, notre Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons aujourd'hui devant ta face. Tellement grand est ton sacrifice, tellement tu t'es livré complètement. Tellement tu n'as pas simplement subi cette colère de Dieu, mais tu t'es offert à cette punition. Chaque instant sur cette croix, tu t'es donné pour être consumé par le feu de la colère divine que nous avions méritée. Gloire à toi que tu as tout effacé. Tout effacé, tout expié, et que nous pouvons réellement nous approcher de Dieu, accepter en règle, sans rien faire nous-mêmes pour en être dignes. Apprends-nous, Seigneur, à nous réjouir en toi d'un tel plan de grâce et de clémence et d'amour. L'homme n'aurait jamais pu inventer une telle chose. Nous te bénissons que tu l'as pensé et que tu l'as fait. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.